Mais j'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes. On va lire juste trois versets. La semaine dernière, c'était le week-end de Pâques, hein, un Christ qui donne sa vie pour nous, mais qui ressuscite. Et puis ce matin, bien, on va continuer un petit peu avec notre Seigneur à cheminer et à s'intéresser à cette première journée de résurrection, ce dimanche de la Pâque juive, en tout cas ce dimanche de Pâques, et puis réaliser finalement à travers celles et ceux qu'il va rencontrer la première journée, eh bien ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies ce matin, parce qu'il demeure le ressuscité, le vivant, bien entendu par son esprit, par sa parole, il est là ce matin, et à travers ces quelques exemples, nous encourager dans la foi. Alors acte 1, verset 1er, dit ceci: « Cher Théophile », hein, littéralement, « cher ami de Dieu », Théophile, ami de Dieu. Dans mon premier livre, qui écrit le livre des Actes, vous en souvenez? C'est Luc, hein, le médecin Luc. Alors, il a déjà, bien sûr, un évangile, en tout cas des écrits qui circulent. Et puis, il dit ceci donc: « J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel et après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux, vivants, et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Et il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. » Ces 40 jours, eh bien, Jésus va s'en servir pour apparaître, pour encourager, pour fortifier une catégorie de personnes bien particulières. Il n'est pas mention de Pilate, il n'est pas fait mention de Hérode, il n'est pas fait mention des principaux sacrificateurs juifs, il n'est pas fait mention du Sanhédrin. Il est seulement fait mention dans ces 40 jours, eh bien, de disciples de Jésus-Christ. D'hommes et de femmes qui un jour ont fait une rencontre avec lui et qui l'ont suivi, qui l'ont accompagné. Et c'est à eux seuls que Jésus va accorder sa présence de résurrection, de ressuscité, de cette résurrection. Pendant ces 40 jours, c'est à eux que Jésus seul va accorder sa présence. Et on pourrait faire le parallèle ce matin avec nous qui sommes devenus les enfants de Dieu. Eh bien, en priorité, Dieu veut se révéler, bien sûr, à ses enfants. Hein, comme des parents, bien, aiment la présence des enfants, notre Dieu aime notre présence. Et c'est un signe de son amour, de sa grâce, notre Dieu. Il se révèle en priorité à ses enfants. Alors, on va lire quelques textes pour réaliser à qui Jésus va-t-il apparaître. On va juste se contenter du dimanche, voilà, de ce dimanche de la résurrection. Et on va voir que, eh bien, Jésus s'est révélé donc à quelques-uns. Est-ce que vous savez à qui Jésus s'est-il révélé en premier? Est-ce que vous avez une idée? À qui?
Aux hommes.
Aux hommes. Eh ben, raté. C'est raté. C'est bien. C'est bien. Merci pour... vous en souviendrez au moins de celle-là. Eh ben non, c'est pas les hommes. Marc 16, pour bien comprendre le contexte. Eh oui, on a des fois des interprétations, des préjugés, des choses comme ça. Mais de temps en temps, le Seigneur met un petit coup, hein, dans la fourmilière. Marc 16, par exemple, verset 1 à 3. « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Le dimanche, elles se rendirent au tombeau. De grand matin, au lever du soleil, elles se disaient: qui nous roulera la pierre? Ici, on voit trois femmes. Hein, donc, il y a Marie de Magdala. Il y a Marie, alors, voilà, c'est la mère de Jacques le mineur. Je ne sais pas si vous voulez suivre. Hein, épouse de Cléopas, dit Alphée aussi. C'est un des 12 disciples, Jacques. Mais il y a aussi Salomé, qui est la mère de Jacques et Jean, qui, elle, est l'épouse de Zébédée, et qui, Jacques et Jean, sont aussi 2 disciples. Et c'est certainement la sœur de Marie, la mère de Jésus. Voilà, un petit peu pour juste brosser le tableau. Et puis on va aller dans Jean 20, au chapitre 20, donc, et verset 1 à 10. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Elle leur dit: « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha, il vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Avec l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que Jésus, d'après l'Écriture, devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Ils ont vu le tombeau vide, mais Jésus n'aurait pas apparu. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, allant annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen. À qui Jésus est-il apparu en premier? Oui. Marie de Magdala. Marie de Magdala. C'est à elle d'abord qu'un ange, alors si on fait le lien entre les deux récits, il semble que ces trois femmes sont venues d'abord au tombeau. Là, elles ont découvert que la pierre était roulée. Elles sont reparties, la Bible nous dit même effrayées, mais une, Marie de Magdala, a été prévenir Simon. Alors Simon-Pierre est arrivé avec Jean, ils sont courus, Marie de Magdala avait déjà fait un aller-retour, donc elle est un petit peu en retrait. Ils arrivent, ils constatent les deux que le tombeau est vide, mais Jésus ne leur est pas apparu. Alors ils repartent chez eux. Et dans le même temps, Marie de Magdala arrive et puis elle est effondrée. Et la première que Jésus va rencontrer, c'est Marie qui est submergée par le chagrin. C'est la première personne que Jésus va rencontrer, Marie submergée par le chagrin. Face aux anges et à leurs questions, Marie va se retourner une première fois. Mais elle ne va pas reconnaître Jésus. Pourtant, il est là, il est debout. Et elle va même penser que c'est le jardinier. Et c'est bien son chagrin, peut-être même ses larmes qui sont bien réelles, sa souffrance due à son amour pour Jésus, qui pour l'instant trouble sa vision, trouble son regard et qui empêche de reconnaître Jésus qui est debout devant elle. C'est peut-être paradoxal parce qu'elle le connaît Jésus, et elle a cheminé avec lui aussi pendant quelques années, mais là à cause de ses larmes, au travers de ses larmes, et on sait quand on pleure la vision est troublée, elle ne reconnaît pas Jésus. C'est paradoxal, mais c'est une réalité que que Marie est en train de vivre. Pourtant, bien que Marie ne reconnaisse pas Jésus, Jésus ne s'offusque pas, Jésus ne va pas la laisser dans son chagrin. Mais Jésus va rester. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus se tient debout devant elle. Une question peut-être pour nous, parce que c'est la question de Jésus à Marie, quelles sont nos larmes ce matin? Quelles sont nos larmes ce matin? D'où proviennent-elles? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous trouble également dans ma vision, dans ma foi, et qui m'empêche pour l'instant de reconnaître malgré tout que Jésus est là? Il se tient à mes côtés, il se tient donc dans ma présence, mais même si je ne le reconnais pas, même si je ne le vois pas, c'est peut-être paradoxal, Jésus est là. Quoi qu'il en soit, il n'y a que Jésus qui puisse répondre à mon besoin ce matin, qui puisse connaître réellement l'intensité, la profondeur de ces larmes que je verse, son sens. Le psaume 56, verset 9, nous ouvre un mystère encore. Il est dit ceci, « Tu comptes les pas de ma vie errante, Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Il y a quelque chose de mystérieux là dans le ciel, mais le psalmiste dit « Recueille mes larmes dans ton outre. » Qu'est-ce qu'une larme ? Une larme, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est beaucoup d'eau. Il y a aussi quelques éléments chimiques, etc. Je me suis demandé, des fois les pasteurs se posent de drôles de questions, hein, combien pèse une larme ? Bon, voilà comme ça. Hein. 32 mg, on m'a répondu, hein, avec un calcul savant. Et il faut donc une trentaine de larmes pour faire un gramme. C'est rien du tout. Une larme, ça ne vaut rien. Ça ne pèse rien. Ça ne contient rien de bien précieux en elle-même, une larme. Mais Dieu recueille nos larmes ce matin. Parce que pour lui, elles ont de la valeur. Pour lui, elles expriment notre souffrance, nos attentes, nos déceptions. Tout cela est exprimé dans ces larmes. Et même si humainement, c'est vrai qu'une larme, c'est rien, Dieu les recueille, Dieu le recueille. Et Jésus va apparaître une première fois vers Marie, une femme qui est submergée par le chagrin. Jésus se révèle à celui qui pleure ce matin, à celui qui est triste de ne plus vivre ou de ne pas assez vivre dans sa présence. On a entendu le témoignage, et il est bouleversant de ces jeunes qui sont en souffrance et qui parfois bien, ont des idées de dire « Moi, je veux partir, je vais arrêter de souffrir sur cette terre. » Béni soit Dieu de ce que Jésus se tient à leur côté, là aussi. Et même si pour l'instant, ils ne le voient pas, même si pour l'instant, il semble que leur détresse les submerge, eh bien, Jésus se tient quand même à leur côté. Amen. Et ça, c'est une belle réalité. Et puis, le dialogue se poursuit. Marie détourne le regard de ce jardinier parce qu'elle continue à chercher des signes. Où est-ce que Jésus ? Elle essaie de savoir pour elle où ce corps a-t-il été mis. Et là, eh bien, elle va se retourner une deuxième fois. Le texte le dit. Elle se retourne une deuxième fois. Elle se retourne une deuxième fois à un moment bien précis. C'est à ce moment où Jésus va l'appeler par son nom. Il va lui dire Marie. Marie. Et ce n'est pas tellement le nom, je pense, mais c'est la manière dont Jésus va l'appeler. C'est la manière dont Jésus va l'interpeller. Jésus aurait pu lui dire, mais Marie, mais pourquoi tu pleures quand même ? Hein, tu es restée 3 ans avec moi, tu savais que j'allais donner ma vie, mais j'avais prévenu aussi que j'allais ressusciter, c'est bien moi. C'est surtout dans la manière dont Jésus va l'interpeller. J'ai fait le parallèle avec ce moment où Élie, lui aussi, hein, demande la mort. Pourtant, il vient d'exterminer 450 prophètes de Baal sur la montagne, etc. Et là, devant la parole d'une femme, Jézabel, eh bien, il fuit dans le désert et il dit « Je demande la mort parce que j'en ai assez de souffrir. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et là, on sait que de quelle manière Dieu va le conduire. Et puis, il y a ce moment dans 1 Roi 19, 11, 12, où Dieu va se révéler à Élie. Comme Jésus se révèle à cette femme, de la même manière, avec la même expression, en tout cas, de voix. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais à ce moment-là, pour Élie, ce n'était pas la manifestation de Dieu dont il avait besoin. Quelque chose de puissant, quelque chose qui déchire tout. Et alors il est dit ceci ensuite, et après ce vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, il n'avait pas besoin d'un tremblement de terre, Élie, à ce moment-là non plus. Il est dit ensuite, après le tremblement de terre, c'était le feu. L'Éternel était dans le feu hein, quelques semaines, quelques jours auparavant. Mais là, à ce moment-là, pour Élie, ce n'était pas ça dont il avait besoin. Et Marie n'a pas besoin d'un tremblement de terre supplémentaire, elle n'a pas besoin d'un feu dans lequel Jésus va se manifester. Mais elle a besoin de quoi ? Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Jésus sait de la meilleure façon possible nous parler. Et il y a des moments où on a besoin de cette manifestation de Dieu où Jésus, où Dieu va s'approcher de nous dans un murmure doux et léger. Amen. Ce matin, nous qui pleurons, qui avons une véritable tristesse comme celle de Marie, eh bien, sachons que Jésus veut se révéler de cette manière. Et Jésus a dit cette parole hein, dans Matthieu 11, 28, « Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je suis doux et humble de cœur. Marie. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas un moment de reproche, mais c'est un moment que Marie va saisir, elle va se retourner et elle va reconnaître Jésus. Amen. Est-ce que ce matin, certains ont besoin de reconnaître Jésus dans un murmure doux et léger, où il les interpelle avec beaucoup de douceur, de compassion, et il nous dit, eh bien, je suis là, dans ton chagrin, je suis venu te rejoindre dans ta tristesse, dans ce que tu vis, et je veux répondre à tes besoins. Amen. Le premier disciple que Jésus a rencontré, c'est Marie de Magdala, une femme qui était submergée par le chagrin. Deuxième, 1 Corinthiens 15, 5, parce que là, c'est un homme. C'est Paul qui dit ceci, 1 Corinthiens 15, 5, et puis les disciples d'Emmaüs le disent aussi, hein, mais en tout cas, il dit ceci, et il est apparu à Céphas, puis aux 12, hein, et ensuite à plus de 500 frères à la fois. Mais l'Écriture ne parle pas de cet entretien, mais eh bien, il est dit que, en tout cas, eh bien, Jésus va apparaître ensuite à Pierre. Alors souvenons-nous de Pierre. Pierre, c'est celui qui a quand même renié Jésus. Malgré un avertissement, malgré une mise en garde de Jésus, il a contesté. Ça n'arrivera jamais, Seigneur. Et puis on connaît la suite. Hein. Et que va-t-il se passer désormais pour Pierre? Eh bien, je l'ai appelé le culpabilisé. Lui, il est rongé par la culpabilité. Ce n'est pas le chagrin, mais c'est la culpabilité. Et il est rongé par la culpabilité. Alors il se dit finalement, eh bien, si Jésus est mort, eh bien, je vais garder ma culpabilité jusqu'à la fin de ma vie. Si vraiment il est mort, eh bien, j'en suis personnellement impliqué. Et puis, si Jésus est ressuscité, alors là, je ne suis plus digne d'être son disciple. Je ne suis plus digne d'être le suivre. C'est fini pour moi. Et finalement, quelle que soit l'option, mort ou ressuscité, eh bien, Pierre va rester dans cette culpabilité, hein, qui va l'enfermer, qui va l'emprisonner. Et on peut parfois vivre bien de telles situations où quelle que soit l'issue auquel on pense, la solution, eh bien, on va être malheureux. On va rester dans cette culpabilité. On va rester dans ce que nous pensons et finalement, eh bien, on reste dans cette culpabilité. C'est Jérémie, hein, dans ses Lamentations, qui va dire ceci, Lamentations 3:19. Il dit ceci, « Souviens-toi de ma détresse, de ma misère, de l'absinthe et du poison. » Et quand il dit ceci, moi, je m'en souviens bien et je sombre. Et oui, hein, quand on n'a qu'à choisir entre l'absinthe et du poison, eh bien, je veux dire, le résultat est le même. C'est la folie, on sombre. Mais il dit ceci ensuite, et on connaît la suite, hein, bien sûr, ce qu'il veut se souvenir, ce qu'il veut proclamer. Mais peut-être que ce matin, bien, quelqu'un là aussi est comme dans l'absinthe, dans le poison. On a beau essayer de se tourner à droite et à gauche, eh bien, on est ici comme Pierre. On est rongé par la culpabilité. On se sent parfois indigne. On se dit, mais oui, là, c'est comme si j'avais renié Jésus. J'ai pas suivi sa parole. J'ai pas été jusqu'au bout de mes engagements. Il y a une bonne nouvelle ce matin. C'est que Jésus, ressuscité, va venir nous rencontrer, nous révéler, se révéler à nous. On ne sait rien de cette rencontre. Et c'est bien, parce que Jésus va préserver l'intimité de Pierre. Jésus n'a pas besoin de révéler à tout le monde ce qui se passe dans le cœur de Pierre. Et il y a des moments dans nos vies où il est bon de savoir que Jésus va respecter notre intimité. Il y a des situations qui sont personnelles que je n'ai pas envie d'exposer devant tout le monde, même si j'ai confiance dans mes frères et sœurs, même si parfois je peux demander prie pour moi, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des rencontres intimes, personnelles, dont personne ne sera jamais au courant. Parce que Jésus bien gardera cette intimité afin de nous garder, de nous bénir, de nous protéger, de nous renouveler. Amen. Et c'est une belle réalité aussi pour nous ce matin, des moments d'intimité que Dieu nous réserve, des face-à-face avec lui, dans la présence de Jésus, afin que là aussi notre cœur soit restauré et soit béni. Alors, on n'aura pas le temps, mais vous pourrez lire le psaume 142, qui est une belle expression aussi de cette réalité. Mais ce matin, Jésus se révèle aussi à celui ou celle qui se culpabilise à tort ou à raison, il se révèle comme il l'a fait pour Pierre, qui était rongé par la culpabilité. Et puis, dans Luc 24, verset 13 à 35, il est dit ceci, c'est une autre rencontre. On est toujours le dimanche, hein ? On est toujours le dimanche. Et là, vous connaissez également, bien sûr, ce passage, on ne va peut-être pas tout relire, hein, mais on a appelé cette rencontre avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, et moi, je les ai appelés les résignés d'Emmaüs. Les résignés d'Emmaüs. Alors, vous relirez Luc 24, mai 13, mais pour bien vous rappeler, ce même jour, donc le dimanche de la résurrection, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, d'une douzaine de kilomètres. Là encore, Jésus va faire route avec ses deux disciples entre Jérusalem et puis Emmaüs. Et comme pour Marie de Magdala, eh bien, au départ, ces deux disciples ne reconnaissent pas Jésus. Eux, ce n'est pas le chagrin qui les submerge, comme pour Marie. Ce n'est pas la culpabilité non plus, hein, mais c'est la résignation. Et j'ai appelé ça l'inertie spirituelle. Et c'est un mot compliqué, hein, l'inertie spirituelle. C'est le diagnostic de Jésus. Il leur dit à un moment donné, mais vous dont le cœur est devenu lent à croire. Vous qui êtes sans intelligence spirituelle. Une autre version dit ceci, tardif de cœur. C'est surprenant, hein ? Tardif de cœur. Lent à comprendre, lent à reconnaître, etc., etc. Alors, je parle sous le contrôle de André, hein, qui est un physicien hors pair, hein, mais en physique, la définition de l'inertie, c'est une résistance passive qu'opposent donc les corps du fait de leur masse, de leur poids, au changement de l'état de repos ou de mouvement dans lequel ils se trouvent. Voilà, si vous n'avez rien compris, c'est normal, c'est toujours les définitions de physique. Alors, on fait simple, j'ai ici un verre d'eau avec mon doigt, là, je ne vais pas avoir trop de problèmes à le pousser, il n'y a pas beaucoup de résistance, d'accord ? Par contre, si vous mettez 10 kilos ici à pousser avec le petit doigt, là, ça va être autre chose. Vous allez avoir une résistance, vous allez avoir de l'inertie, je vais avoir du mal à pousser. Et finalement, c'est quoi l'inertie spirituelle ? Eh bien, c'est la lenteur ou la rapidité à croire, bien sûr, ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous dit. Et cette inertie spirituelle, comme en physique, elle dépend de deux éléments. Elle dépend d'abord de notre masse, je veux vexer personne, hein, de notre poids, c'est-à-dire de notre volonté, de notre chair, de nos idées, de nos raisonnements, de notre volonté. Ça, c'est la masse, c'est ce qui résiste. Et puis, de l'autre côté, eh bien, la dynamique de la foi, de l'esprit, de la parole de Dieu. Et ainsi, en fonction bien des forces qui s'exercent, soit je me déplace facilement dans la volonté de Dieu, ou alors je freine, ou alors je résiste, ou alors je bloque. Il y a les deux. En tout cas, ici, qu'est-ce qui fait leur résistance ? Eh bien, on peut y aller, hein, leur découragement, leur tristesse, leur déception, leur raisonnement, etc. Tout ça, ça prend le dessus. Et alors, eh bien, le peu de foi qui leur reste n'arrive pas à déplacer cette incrédulité, ce découragement. Mais Jésus va intervenir. Et peut-être que ce matin, il y a des bien-aimés qui sont résignés par rapport à certaines situations. Depuis quelque temps, vous dites, mais ça ne bouge pas, et ça ne bougera pas, et ce sera toujours comme cela. Il y a cette inertie, il y a nos raisonnements, il y a le découragement qui est là et qui freine, et qui fait obstacle. Alors il y a une bonne nouvelle, comme pour ses disciples, eh bien c'est que Jésus va se révéler à eux. Et Jésus veut se révéler à nous ce matin. Et il veut ainsi susciter notre foi. Il veut apporter des paroles qui vont venir nous percuter, nous consoler, qui vont venir nous encourager. C'est ce qui va se passer, hein. Vous vous rendez compte, je ne sais pas combien de kilomètres Jésus va faire avec ses deux disciples, mais ils vont avoir un cours particulier, hein, un cours de théologie, un cours de doctrine, un cours de foi. Pendant plusieurs kilomètres, eh bien, Jésus va les enseigner. Il va reprendre tous les prophètes, l'Ancien Testament, etc. Et puis, il va partager ce qui concerne bien sa parole, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et là, le texte nous dit après, une fois qu'ils l'ont quitté, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures ? Il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. La foi a remonté là. L'Esprit de Dieu a saisi ses disciples, la parole de Christ a fait son œuvre, et finalement, bien, c'est cette force qui leur a permis, eh bien, désormais, de croire, de repartir de plus belle dans leur vie, parce que la foi avait triomphé du découragement, l'inertie spirituelle avait été débloquée. Les conséquences, ils retournent à Jérusalem. Ils ont déjà 12 kilomètres, mais ils retournent à Jérusalem. Ils sont animés de cette nouvelle dynamique, de cette foi, de cette force spirituelle. Ils quittent Emmaüs, ça veut dire peuple obscur ou méprisé, et ils retournent à Jérusalem, fondement de paix, cité de paix. Ils passent de l'obscurité à la paix de Dieu. C'est extraordinaire. Ils passent de l'obscurité à la paix de Dieu. Leur inertie spirituelle, lent à croire, a été vaincue. Et de l'obscurité, ils passent à la paix de Dieu. Il y a Philippiens 4, versets 6 et 7, et on va terminer après, mais qui nous dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Passer de l'obscurité des ténèbres, passer à la paix de Dieu. Et puis, il remonte vers Jérusalem. Il s'élève vers Jérusalem. Parce que le texte ne le dit pas, mais quand vous regardez une carte, il y a un dénivelé. Sur 12 kilomètres, alors je ne suis pas un spécialiste de course, mais il y aurait un dénivelé environ de 300 mètres. Donc il faut remonter à Jérusalem. Mais là, ils ont pris des forces nouvelles. Ça ne leur fait pas peur. Ils s'élèvent à nouveau dans la présence de Jésus, ils s'élèvent dans la présence de Dieu. Et là, il y a encore un beau texte, Ésaïe 40, verset 31. « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Jésus, ce matin, se présente encore et toujours à celles et ceux qui, comme ces disciples d'Emmaüs, sont résignés. Amen. C'est une bonne nouvelle. Jésus se présente à nous. Et puis on termine, puisque après cette apparition aux deux qui étaient résignés et puis qui vont ressusciter, ils vont apparaître. C'est Luc 24 à partir du verset 36. Il parlait encore quand lui-même se présenta. Donc les deux disciples parlaient encore. Et c'est eux qui disent, juste la parenthèse, au verset 34, je ne sais pas comment ils ont eu l'info, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Certainement que dans leur conversation, Jésus a dû leur dire, bien, je vais aller voir Simon, j'ai été le voir. Enfin, mais en tout cas, ils le savent. Et ensuite, il est dit, bien, il se présenta à eux. Et eux, où sont-ils? Et comment le vivent-ils? Eh bien, il est simplement rappelé que eux, dans un autre évangile, alors je ne l'ai plus là, mais un autre évangile nous dit qu'ils étaient donc enfermés à cause de la peur des Juifs. Ils étaient enfermés à cause de la peur des Juifs. Et ce matin, eh bien, Jésus est celui aussi qui se révèle à nous qui pouvons être apeurés, à nous qui pouvons là aussi être apeurés. Vous vous souvenez du mot qu'on avait découvert la semaine dernière, justement, concernant la peur? C'est le mot qui a donné phobie. C'est le mot qui a donné... Et là, c'est le même mot encore. C'est dans Jean 20, versets 19 à 21. Voilà, je l'ai retrouvé. Il dit ceci, Jean 20, 19. « Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblées étaient fermées parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus va alors se présenter au milieu d'eux, que la paix soit avec vous. » Décidément, c'est donc un sentiment récurrent chez les disciples que l'on retrouve souvent chez eux, mais aussi chez nous. Chez nous. Il y a toutes sortes de peurs. Que se passe-t-il donc ici pour ces disciples? Eux qui, pendant 3 ans, bien, ont parcouru avec Jésus la Samarie, la Galilée, la Judée, etc. Ils ont vu des possédés être délivrés, des malades être guéris. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Et là, par peur, par crainte des Juifs, ils s'enferment. Ils s'enferment. Ils se barricadent. Ils se cachent. Ils veulent se faire oublier. Ils se disent que si les autorités, et c'est un raisonnement qu'on peut entendre, ont arrêté Jésus, l'ont fait crucifier, eh bien, il pourrait aussi être arrêté, voire être condamné aussi à mort. On sait tous que la peur est mauvaise conseillère. C'est une chose, elle a tendance à nous faire fuir, bien sûr, des situations qui sont redoutées. On se souvient de Adam, Ève, mais en tout cas Adam, j'ai entendu ta voix, et je me suis caché parce que j'ai eu peur, etc., etc. Mais la peur aussi, nous le savons, eh bien, elle n'exclut pas le danger. Et face à nos dangers, face à nos peurs ce matin, il nous faut la présence rassurante de Jésus, la présence toute puissante de Jésus. Il n'y a en effet que lui qui puisse nous rejoindre dans nos cachettes secrètes, là où on se réfugie quand on a peur, pour éviter toutes sortes, bien sûr, de problèmes, de difficultés, nous en faire sortir et puis en devenir vainqueur. Amen. Et nous en faire sortir et en devenir vainqueur. Oui, la bonne nouvelle, eh bien, c'est dans le psaume 34, verset 6, et on va conclure après. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Amen. Quelle journée extraordinaire, ce dimanche avec Jésus, le dimanche de la résurrection. Vous en souviendrez, il va apparaître à Marie qui est submergée par son chagrin. Il va apparaître à Pierre qui est rongé par la culpabilité. Il va apparaître aux deux disciples d'Emmaüs qui, eux, sont résignés. Et puis, il va apparaître aux 11 qui sont enfermés à cause de leur peur ou dans leur peur. Mais pour tous ces bien-aimés, eh bien, Jésus ne va pas les abandonner, mais il va se révéler en tant que Christ ressuscité. Et ce matin, il y a une promesse pour nous qui va dans ce sens, et que nous soyons apeurés, culpabilisés, résignés ou autres, peu importe, eh bien, Jésus se révèle encore et une fois de plus à chacun. Il a fait cette promesse. Enseignez-leur à observer, oui, tout ce que je vous ai prescrit, et puis la suite. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Ce matin, bien, Jésus prend un soin particulier à se révéler à ses enfants. Et quelle que soit notre situation, eh bien, laissons le ressusciter, se révéler, nous approcher, nous consoler, nous éduquer, nous renouveler. Mais il veut le faire avec chacun d'entre nous. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, pour ta bonté et ta fidélité. Nous sommes venus ce matin avec ce que nous portons, avec des sentiments, avec des situations, Seigneur. Peut-être qu'on s'est reconnu dans une de ces situations, voire dans plusieurs. Mais la bonne nouvelle, Seigneur, ce n'est pas de chercher finalement ce qui nous terrasse, c'est de se laisser surtout saisir par ta présence, par ta parole, par ton esprit, afin que nous puissions passer comme ses disciples de l'obscurité à la lumière, à la paix et à la grâce de Dieu. Alors oui, Seigneur, nous venons peut-être apeurés, culpabilisés, résignés, chagrinés ou autres, mais nous nous laissons interpeller par ta parole. Que ta bonne main soit sur nous et que nous puissions encore ce matin vivre la résurrection. En effet, tu n'as pas honte de nous, de nos détresses, de nos misères, mais tu viens nous rejoindre. Et nous prions ce matin les uns pour les autres, afin que quelle que soit la situation que nous vivons, nous puissions aussi repartir avec cette espérance dans le nom de Jésus. Y aura-t-il quelqu'un qui ce matin, en baissant ses yeux, et tout le monde le fait, voudrait dire, Seigneur, eh bien oui, je me retrouve dans une de ces situations, j'ai besoin de toi, alors, eh bien, révèle-toi, moi, comme le Christ ressuscité, comme le Christ crucifié, celui qui a tout accompli à la croix du calvaire. Et simplement, là où vous êtes, eh bien, j'inviterai à lever votre bras, afin que, si vous avez besoin de cette rencontre, eh bien, Jésus puisse saisir votre main et vous bénir. Y aurait-il quelqu'un ? Oui, je vous ai vu. Oui, 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 oui, je vous ai vu au fond. Vous pouvez baisser vos bras, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, ce sont des mains qui se lèvent devant toi et pour toi. Et il n'y a que toi qui puisse les saisir. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse ensuite faire sortir ces bien-aimés de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils confessent, et qui est une réalité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin pour que le Christ ressuscité, la parole de vie, agisse maintenant comme dans ces exemples. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons bénir le nom de Jésus pour cette rencontre ce matin avec ses bien-aimés. Oui, que ta puissance, que la puissance de ta parole, Seigneur, agisse parce que tu nous rappelles qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes, dans les esprits de ses bien-aimés. Et nous t'en bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va avoir un moment de Sainte-Cène où ce matin, nous qui sommes baptisés par immersion, eh bien, nous pourrons nous lever pour y participer et puis prendre encore un temps d'encouragement. Si nous voulons élever nos voix, nous voulons le faire pendant ces moments. Je demanderai peut-être à Serge, à Christian, puis peut-être à notre sœur aussi, Monique, hein, de venir sur le devant pour...